le magazine des Nations Unies.
Cas confirmés de mort par balle, plus d'une centaine d'arrestations. C'est le bilan dressé par le Bureau conjoint aux droits de l'homme et la MONUSCO concernant les manifestations autour de la date de la fin du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. Dans un message rendu public le 20 décembre, les représentants spéciaux en RDC Maman Sidikou a exprimé sa vive préoccupation. Les détails dans ce magazine. La RDC a enregistré près de 2 milliards de dollars en termes de coûts de la sous-nutrition entre 1950 et 2014. C'est ce qui ressort de l'étude sur les coûts de la faim validée la semaine dernière à Kinshasa par une équipe multisectorielle avec l'appui du PAM. Enfin, la MONUSCO vole au secours des blessés victimes du conflit Toa et Louba à Manono. Ces blessés par flèche ont été évacués vers des centres hospitaliers spécialisés de Bukavu au sud Kivu. Entre-temps, une équipe de chirurgiens a été dépêchée sur place à Manono pour la prise en charge d'autres blessés.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bonne fête de Noël. Merci de suivre la dernière édition du magazine des Nations Unies de l'année 2016. Et la grande actualité de cette édition porte sur les bilans des manifestations avant, pendant et après la date du 19 décembre 2016, date ayant marqué la fin constitutionnelle du deuxième et dernier mandat du président de la République. Il y a eu des morts, des blessés et des arrestations, et le bureau conjoint et la MONUSCO ont exprimé leurs vives préoccupations par rapport à ces bilans. Honoré Missengakalala.
Mercredi, au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa, le directeur du bureau conjoint aux droits de l'homme a condamné les violences enregistrées à partir du 19 décembre dans les principales villes du pays. Des propriétés et des sièges des partis politiques détruits, des stations d'essence vandalisées et des postes de la police brûlés par la population. José Maria Ranaz s'est également dit préoccupé par l'usage excessif de la force par les agents des services de sécurité étatique avant de faire le décompte macabre du 19 et du 20 décembre.
Nous avons documenté au moins 19 cas confirmés de morts par balle et nous sommes en train de vérifier encore des autres cas. Aussi 45 personnes blessées et les chiffres très élevés des arrestations à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma.
Concernant les arrestations, Maman Sidikou, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, avait déjà exprimé un jour plus tôt sa vive préoccupation. Le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bass, a démarré la conférence de presse de mercredi par le message de Maman Sidikou.
Nous démarrons cette conférence de presse par cette annonce de Monsieur Maman Sambou Sidikou, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, qui a exprimé sa profonde inquiétude face à la vague d'arrestations et de détentions rapportées au cours des trois derniers jours dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En outre, il déplore le caractère arbitraire de certaines de ces arrestations. Depuis le 16 décembre, l'Organisation des Nations Unies a recensé 113 arrestations dans le pays, dont des dirigeants et des sympathisants de l'opposition, des activistes de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme, des professionnels des médias ainsi que d'autres personnes. La plupart de ces arrestations ont été effectuées par la police nationale congolaise, l'agence nationale de renseignement et la garde républicaine et ont eu lieu à Goma, Kinshasa, Bukavu, Lubumbashi et Matadi. Les Nations Unies n'ont pas été systématiquement autorisées à avoir accès aux lieux de détention afin de vérifier les conditions dans lesquelles se trouvent les détenus.
Dans la conclusion de son message, le chef de la MONUSCO est revenu sur son communiqué du 18 décembre 2016, communiqué dans lequel il souligne la nécessité pour tous les Congolais et en particulier les responsables des institutions judiciaires et des agences de l'État en charge de la sécurité, de respecter les lois du pays et d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le programme Village et École à Séni évolue plutôt bien dans la zone éducationnelle de Kikwit 1. Là, nous sommes dans la province du Kwilu. 6 écoles sont déjà certifiées à Séni, ce qui est un progrès selon le sous-prophète Jean-Robert Kalandula. Mais comme dans tout le projet, les difficultés ne manquent pas. Suivez cette interview qu'il a accordée à Jean-Pierre Elali Ikoko lors d'une descente la semaine dernière à Kikwit.
Jean-Robert Kalandula, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Est-ce que nous pouvons avoir auprès de vous un état des lieux complet de la situation en ce qui concerne justement ce programme des écoles à Séni?
Dans la sous-province éducationnelle Kikwit 1, nous avons 6 écoles qui sont ciblées dans ce programme école Asseni. Nous avons Epe Mbelo, Epe Mwanambuka, Epe Lukula, Epe Sosa et plus Epe Messiminko et Kimbilangundu. Donc ce qui fait au total 6 écoles. Et dans les 6 écoles que nous avons, je crois que tout marche déjà bien parce que dans la plupart de toutes ces écoles, les latrines ont été construites. Nous avons observé jusque-là qu'il y a de l'assainissement. L'hygiène est jusque-là observée. Et de façon générale, nous avons amené les enfants à prendre certaines pratiques de l'hygiène pour combattre surtout les maladies hydriques. Donc, de ce côté-là, nous nous rendons compte qu'avec les stations à lave-main, donc déjà, ça, c'est un progrès qui est en train d'être réalisé. Donc, toutes ces écoles, je crois, sont déjà aussi certifiées. Et depuis 2014, qu'on avait certifié 4 et 2 venaient d'être certifiées en 2016.
Vous évoquiez tout à l'heure là, le problème des écoles Asseni. Nous avons aussi visité 2 de ces écoles, mais il se pose un problème d'approvisionnement en eau potable. Et là, nous avons remarqué que les élèves vont puiser de l'eau à 20 minutes de l'école. Et nous avons été également à Mbelo. Il n'y a pratiquement pas d'eau pour les élèves. Alors, comment vous comptez résoudre ce problème alors que vous parlez justement des choses qui marchent?
Oui, dans ce qui marche, parce qu'on ne va pas seulement parler de négatifs, et de positifs, il y en a, mais dans les négatifs, même dans notre rapport, nous n'avons pas manqué de relever cette difficulté et qu'on devrait approvisionner les écoles en eau. Donc c'est une difficulté réelle, effectivement. Et avec le forage qu'on a mis sur pied, ça ne marche pas. Et pour le moment, en tout cas, je crois que dans toutes ces écoles que vous avez citées, tout comme dans bien d'autres, il faudra de l'approvisionnement en eau pour permettre les enfants à ne pas courir de longues distances pour aller, parce que surtout, ce n'est pas la tâche des enfants d'aller chercher de l'eau.
Bon, c'est un programme du gouvernement, il n'y a pas d'eau, vous l'avez reconnu, mais par où faut-il commencer? Parce qu'on doit avoir de l'eau pour que l'école soit certifiée exactement comme Asseni.
Il nous faut des plaidoyers. En principe, il nous faut des plaidoyers, parce que c'est à partir de ces plaidoyers que nous pourrons voir comment obtenir de l'eau.
Auprès de qui?
Auprès du gouvernement. Auprès du gouvernement et en partenariat avec le partenaire, parce que le partenaire souvent vient en appui au gouvernement.
Oui, une autre difficulté que nous avons rencontrée, notamment à
Kimbilangundu.
Oui, justement, excusez-moi pour avoir écorché le nom. Mais nous avons constaté aussi qu'il y a des classes qui sont pléthoriques. Et le directeur s'est plaint pour cette situation et aussi il a demandé à ce que vous puissiez vraiment intervenir. Quelle est votre réponse?
C'est vrai, c'est une difficulté que nous n'avons pas manqué aussi d'essayer dans notre rapport quand nous avions fait la supervision. En fait, le dédoublement de classe, c'est un problème du gouvernement, pas c'est un problème du budget. Pour dédoubler une classe suite au pléthore, il faudra qu'il y ait aussi un budget supplémentaire pour payer ces classes-là. Alors, nous, à notre niveau, lors de promotion scolaire, nous établissons un rapport et c'est ce rapport-là que nous envoyons au ministère afin de demander les dédoublement des classes. Et c'est au vu de ces rapports que cela peut être possible. Donc ce qui est vrai que c'est une difficulté que nous avons rencontrée à l'EPE Kimbilangundu. Nous avons même tiré des photos lors de notre supervision montrant que les élèves étudient dans de très mauvaises conditions, 4 par banc.
Alors il faut faire vite pour avoir la solution, c'est ça?
Oui, comme c'est un problème de l'administration, c'est sûr que ça prendra aussi du temps.
Alors nous avons aussi remarqué une chose dans cette école, c'est que le directeur prend aussi une initiative tout à fait personnelle en ce qui concerne justement les potentiels. Et c'est grâce à ce potager-là qu'il a pu réaliser et refaire la toiture de l'école qui était emportée par les vents, un vent violent. Alors, à ce niveau-là, est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport aux 6 autres écoles Asseni de votre sous-juridiction?
C'est un exemple que nous avons même donné aux autres. Parce que quand nous avons vu les pépinières de tomatiers, de tout ce qu'il était en train de faire, et j'ai même vu du maïs qu'on avait semé de gauche à droite, j'avais pensé que c'était quelque chose à encourager et nous n'avons pas manqué signaler ça dans le rapport pour que cela soit pris comme modèle pour les autres écoles.
Revenons-en dans vos rapports avec la hiérarchie. Vous dites que vous posez des problèmes, vous attendez des solutions, ça prend du temps. Quelle est la nature de relation entre votre sous-juridiction et la hiérarchie en général?
Bon, nous nous sommes des exécutants. Toutes les fois que nous pouvons recevoir des doléances, nous mettons ça par écrit, donc nous faisons de l'administration et nous attendons la réponse de la hiérarchie. Quand jusque-là la hiérarchie ne réagit pas, nous sommes à notre niveau aussi bloqué bloqués parce que nous n'aurons pas de miracle solution.
Alors, qu'est-ce que vous croyez en ce qui concerne l'avenir de ces programmes écoles et assainis?
Nous sommes contents parce que jusque-là, c'est comme je l'avais dit, que de façon partielle, les objectifs que nous étions en train d'atteindre par rapport à ce partenariat entre les deux ministères, EPSP et Santé, c'est déjà probant. Nous encourageons ça et nous voudrions que, à la longue, puisque déjà quelques résolutions sont palpables, que quelques pratiques sont déjà observées, l'hygiène est observée, et la cour de l'école propre, les trois ordures existent. Nous pensons que c'est une bonne lancée et que nous devons bénir ces projets.
Merci.
Les nouvelles en bref à présent, la MONUSCO a procédé le 21 décembre 2016 à Chabunda Centre à l'inauguration de la radio communautaire Mutula. Il s'agit d'un projet impact rapide initié en janvier 2014 pour un montant total de 99 000 dollars. Projet mis en œuvre par l'Association des femmes des médias du Sud-Kivu avec le soutien de l'Observatoire médiatique Justice et Paix et de l'autorité locale. Ce projet contribue ainsi au désenclavement et au développement socio-économique de la localité de Chabunda et permet aux bénéficiaires d'accéder à l'information audio crédible, objective, indépendante et impartiale. Rendons-nous à présent à Kananga, au Kasaï central, pour parler de la fin, le 19 décembre 2016, de la formation des 500 agents de la police nationale congolaise. La cérémonie s'est déroulée à la place Indépendance. Elle a été présidée par le gouverneur du Kasaï central, en provenance du président adjoint de l'Assemblée provinciale et plusieurs députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial. Les autorités civiles et policières qui ont pris la parole ont tous remercié la MONUSCO et surtout sa composante police qui ne cesse d'accompagner la PNC, qu'elle aide à rendre plus professionnelle, républicaine, mais surtout respectueuse des droits de l'homme. Des exercices grandeur nature ont été faits devant un grand public. Enfin, les Nations Unies apportent leur soutien aux opérations de révision du fichier électoral. À ces jours, la plupart des hubs des zones opérationnelles 1 et 2 du Grand Équateur, du Olomami, Lualaba, Okatanga, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tanganyika, auxquels s'ajoute la province de l'Ituri, ont reçu les équipements attendus. Des avions cargo Ilouchine 76 et 630 Hercule de la MONUSCO ont déjà effectué 67 vols au départ de Kinshasa et de Lubumbashi vers diverses destinations à l'intérieur du pays.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La RDC a enregistré près de 2 milliards de dollars en termes de coûts de la sous-nutrition entre 1950 et 2014. C'est ce qui ressort de l'étude sur les coûts de la faim validée mercredi à Kinshasa par une équipe multisectorielle sur recommandation de l'Union africaine et avec l'appui du PAM. Dieudonné Kouété, conseiller à la primature et coordonnateur de l'étude, évoque les conséquences de la sous-nutrition sur le développement socio-économique de la RDC ainsi que des pistes de solutions proposées dans cette étude. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Dieudonné Kouété, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller à la primature et c'est vous qui avez chapeauté l'étude sur le coût de la faim en République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons connaître l'essentiel de cette étude que vous venez de publier aujourd'hui?
Donc, comme vous venez de le dire, l'étude est menée sous le leadership de la primature, du Premier ministre. Nous sommes conseillers et c'est à ce titre-là que nous avons contribué à la réalisation en coordonnant l'équipe technique pays. Et donc, aujourd'hui, l'étude nous permet de voir les conséquences de la sous-nutrition dans notre pays au niveau du secteur de l'éducation, au niveau de la santé et au niveau de l'emploi. Et donc, considérant l'ampleur du retard de croissance dans notre pays qui frappe les enfants de moins de 5 ans et de l'insuffisance pondérale, l'étude a permis de dégager l'impact en termes de perte du PIB. Globalement, on est autour de 5,41% de perte du PIB, ce qui fait en termes monétaires, on est autour de 1,7 milliard de dollars américains. Et cela, c'est en considérant un horizon qui part de l'année 1950 jusqu'à 2014. C'est-à-dire, pendant cette période ici, la sous-nutrition, qu'est-ce que cela a coûté à l'économie nationale. Et c'est ça, ces chiffres qu'on venait de fournir, c'est ça, ces évidences que cette étude vient de fournir aujourd'hui.
Oui, vous venez de parler de l'impact de la faim dans le développement social et économique de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qu'on peut retenir des recommandations? En d'autres termes, quelles sont les leçons à tirer de votre étude que vous venez de réaliser?
La plus grande leçon à tirer, c'est que l'étude appelle à l'action. Elle appelle à l'action pour la mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre la malnutrition dans notre pays. Parce que les conséquences sont très énormes au niveau de l'emploi, au niveau de la santé et au niveau de l'éducation. Notamment, par exemple, les taux de redoublement des enfants ayant souffert de l'insuffisance pondérale, qui est autour de 15,8, alors que ceux qui n'ont pas souffert de l'insuffisance est à 6,3%. Et donc, les conséquences sont très énormes en termes de redoublement et en termes d'abandon. Et cela se répercute lorsque ces enfants seront adultes sur le marché de l'emploi. Donc, ceux qui ont souffert de l'insuffisance pondérale, pour la plupart, vont pouvoir abandonner. Et ceux qui ont souffert du retard de croissance, pour la plupart, vont abandonner. Ils vont se retrouver dans le secteur manuel, qui demandent des capacités physiques pour lesquelles elles ne sont pas suffisamment dotées de ça. Et donc, leur rendement, leur productivité sera faible par rapport à ceux qui n'ont pas souffert de l'insuffisance pondérale ou du retard de croissance. Et donc, l'étude appelle à l'action pour la mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre la malnutrition dans notre pays. Depuis que le pays a adhéré au mouvement sur le renforcement de la nutrition, nous avons des outils, des politiques qui ont été révisées. Et à travers ces politiques, il y a des programmes et des actions qui vont permettre de s'attaquer au problème de la sous-nutrition.
Oui, justement, monsieur le conseiller, on a toujours réalisé des programmes ici, on a toujours des politiques, comme vous le dites, mais on a toujours fait la remarque aux autorités de notre pays, c'est celle de ne pas matérialiser les recommandations ou même ces programmes qui existent déjà. Et à votre niveau, après avoir réalisé cette étude, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en ce qui concerne justement la matérialisation de tout ce que vous aurez fait ici? Est-ce qu'il y aura une différence avec le programme que nous avons connu ici dans notre pays? Est-ce qu'il faut attendre quelque chose d'essentiel?
Non, je crois que les partenaires venaient de le dire, les partenaires qui nous ont appuyés dans la réalisation de l'étude, notamment le département des affaires sociales de l'Union africaine et même le PAM qui a appuyé cette étude, que leur rôle c'est de continuer à faire le plaidoyer au niveau des États pour voir si les recommandations formulées par cette étude sont traduites en termes d'action et de programme. Et donc, comme je disais, l'étude a été réalisée par l'équipe technique qui est une équipe multisectorielle. Donc il y a le ministère de l'Agriculture, il y a le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, il y a le ministère des Affaires sociales, il y a le ministère du Budget. Le plaidoyer qui est mené est que chaque ministère dans ses documents de politique et de stratégie puisse intégrer des questions en rapport avec la nutrition. Et donc c'est ça le plaidoyer que nous menons au niveau du mouvement sur le renforcement de la nutrition, qui est piloté par la primature. Et donc pour que chacun des ministères sectoriels ayant des actions ou des interventions sensibles à la nutrition puisse intégrer des lignes budgétaires en rapport avec ces interventions-là. C'est la même chose aussi pour les ministères de la santé. Et donc c'est une équipe multisectorielle qui prend en compte des cadres des administrations concernées. Et donc dans le cadre de la pérennité, de la continuité, il y a cette masse critique d'experts qui sont venus des différents ministères qui continueront toujours dans le cadre de ces mouvements à faire les plaidoyers dans ce sens-là.
Pour terminer, vous venez de valider cette étude aujourd'hui et la prochaine étape?
Nous venons de valider les données, donc les résultats qu'on a aujourd'hui c'est des résultats encore préliminaires, mais les prochaines étapes c'est la finalisation du rapport. Nous avons un rapport préliminaire qu'il faudra finaliser et il est prévu le lancement officiel en janvier 2017. Donc là, c'est au niveau gouvernemental, des autorités gouvernementales qui devront pouvoir lancer. Ça pourrait être soit la primature ou le ministère du plan, comme cela a été fait lors du lancement de l'étude au mois de septembre 2016.
Monsieur le conseiller Kouete Dieudonné, Radio Kapi vous remercie.
Merci.
À Manono, dans la province du Tanganyika, la MONUSCO vient de procéder à l'évacuation médicale jeudi dernier des blessés graves par flèche. Ces blessés doivent être pris en charge par des institutions hospitalières spécialisées à Bukavu. Entre-temps, une équipe supplémentaire de médecins chirurgiens vient d'être déployée à Manono par le gouvernement provincial pour assurer la prise en charge des 114 autres blessés par flèche internés à l'hôpital général des références de Manono. Amoury Leka pour les détails.
Après l'attaque de la cité de Manono, les activités socio-économiques sont restées paralysées. Les écoles, les marchés, voire les bureaux étatiques sont tous fermés. La milice bantoue, élément, patrouille la cité. Ils sont des centaines regroupés à tout le point stratégique de la cité de Manono. Pour la coordination de la nouvelle société civile de Manono, l'attaque des milices de toi mardi dernier a occasionné des dégâts humains considérables. Témoignage.
Nous allons demander que l'État impose son autorité. À Manono aujourd'hui, vous voyez la milice passer de bas en haut, c'est eux qui commencent à contrôler les prix sur les marché, c'est eux qui commencent à imposer les choses.
C'est quelle milice?
Ce sont les éléments, nos frères qui ont pris conscience.
Pour l'administrateur des territoires de Manono, les bilans restent à déterminer. Pour lui, l'appui de la MONUSCO et des autorités politico-militaires de la province est nécessaire en cette période. Pierre Munkamba.
Je vous parle sérieusement que à l'hôpital général de l'Espérance, il y a peu plus de 100 blessés. Pour moi, j'ai enregistré 3 morts. Il y a un motard qu'on a tué, il y a une femme qu'on a tuée, un enfant, un élève aussi qui venait de l'école. Nous sommes censés, notre devoir, c'est sensibiliser les deux communautés pour la cohabitation pacifique. Voilà notre mission.
Actuellement, la milice est toi s'est retranchée aux environs des 15 km de Manono Centre, au village Kamala, Loakato et Kaseya, rendant ses axes inaccessibles vers le champ des populations.
À Kamala, nous allons y arriver, sensibiliser la communauté qui est là.
Des retours de Manono, depuis Kalemi, Amoury Aleka, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question Nations Unies.
Benoît Kambéré et Lusumba. Pour le compte du journal L'Émergence et les échos de la région des Grands Lacs, il a été dit ici, la semaine dernière, qu'il y a eu une montée en puissance des forces de la MONUSCO, notamment de la police, pour encadrer, pour veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés. Nous savons également que la police de la MONUSCO apporte un appui à la police nationale congolaise. Comment expliquer que la police nationale congolaise continue à utiliser les armes létales? Tout à l'heure, on a parlé de 19 morts, comme si c'était de façon aléatoire. Qu'est fait la MONUSCO, finalement, pour que ces morts cessent?
La réponse à cette question posée au cours de la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier a été donnée par le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Basse.
Effectivement, nous avons reçu mandat à travers la résolution 2277 qui nous a été donnée par le Conseil de sécurité de procéder à la formation des agents de la police nationale congolaise afin qu'ils puissent, dans le cadre de l'exécution de leur travail aussi, puissent procéder à ce qu'on appelle de manière très globale maintien et rétablissement de l'ordre. Au cours de nos différentes conférences de presse ici, je pense que nous avons partagé avec vous toutes les différentes formations qui ont été accordées aux agents de la police nationale congolaise. Donc c'est pour vous dire un peu que certains modules liés justement à la gestion démocratique des foules, mais aussi des modules relatifs au respect des droits de l'homme sont de manière récurrente dispensés aux forces de défense et de sécurité congolaises. Alors, nous avons toujours prôné, d'ailleurs, la non-utilisation des armes létales. Parce que le maintien de l'ordre, le contrôle des foules ne se fait pas avec des armes létales. Et je pense très bien que lors des premières élections, ici, beaucoup d'équipements, beaucoup d'entraînements, beaucoup de formations ont été quand même dispensés aux forces de défense et de sécurité congolaises pour la non-utilisation des armes létales. Évidemment, il y a aussi une question qui est fondamentale. Nous ne sommes pas aux côtés de la police nationale congolaise lorsqu'ils sont déployés dans la ville de Kinshasa. Donc je pense que cette question, on devrait l'inverser, vous devrez la poser directement aux responsables de la police nationale congolaise en leur disant, mais pourquoi vous utilisez des armes létales? Au lieu de dire à la MONUSCO, pourquoi est-ce que les policiers congolais utilisent des armes létales? Donc nous continuons, nous poursuivons nos efforts en dénonçant, en documentant et en disant à tout le monde que ceux qui ont eu à faire usage d'armes létales, en tout cas qui ont tué des Congolais, devront en répondre tôt ou tard devant les juridictions appropriées.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je suis Célestin Luntala en Kibiakanda, marié, père de 5 enfants. Par rapport à ma formation, je suis d'abord ingénieur en bâtiments et travaux publics de l'IBTP Matadi
et puis je suis licencié à eau, hygiène et assainissement de l'université Désir. Donc c'est l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou, Burkina Faso. Et après, je suis aussi expert en gestion des déchets, nous nous appelons ça gestion des excréta. Expérience professionnelle avant l'agence, j'étais à la Régie des eaux, où j'ai travaillé pendant 20 ans. D'abord pour la production, j'étais chef de production, et puis je suis passé chef de section contrôle de la qualité de l'eau dans toute la province de l'ex-Bas-Congo. Et après, je suis allé dans une ONG qui s'occupait de l'eau et de l'assainissement. C'est à partir de là que j'ai eu l'offre de l'INSEF en 2007. Je suis à l'INSEF depuis 2007. Par rapport à ma fonction, actuellement à l'INSEF, je suis administrateur chargé du programme eau, hygiène, assainissement. Donc c'est là où intervient le programme École et Village Assaini et aussi les urgences en matière de l'eau, hygiène, assainissement, dont toutes les épidémies liées à l'eau, hygiène, assainissement. Bon, ma tâche quotidienne, c'est d'abord, quand je me lève le matin, c'est d'abord faire le footing, le sport. Déjà, j'ai fait au moins 30 minutes chaque jour. Et après, j'ai fait ma prière et je descends au bureau. Mon travail, c'est plus accompagner les partenaires étatiques et non étatiques dans les ONG pour pouvoir voir comment mettre en œuvre ces programmes et comment faire la promotion comportementale par rapport à l'hygiène et l'assainissement. Mes temps libres, bon, c'est souvent les soirs après le boulot, mais souvent c'est le week-end parce que pendant toutes les journées de la semaine, on est presque pris toute la journée. Mais c'est plus le week-end où je me divertis avec les enfants, les amener quelque part pour se divertir. Et les dimanches, on est à l'église parce qu'on a aussi des activités à l'église. Mes préférences, c'est la musique et le sport. Toute la musique, je n'ai pas de choix. Parce que même la musique profane, là, il y a aussi des choses qui... Les réflexes n'arrivent pas, attendez, je vais voir. Mais je termine d'abord par les perspectives. Par rapport aux perspectives, je sais qu'on a encore à 17, mais parmi mes perspectives, c'est de voir comment faire en sorte que le secteur de l'eau, hygiène et assainissement soit intériorisé dans la communauté. L'eau, hygiène et assainissement. Et surtout les côtés assainissement, parce qu'il y a encore des problèmes. Nos communautés sont un peu en deçà par rapport au comportement, par rapport à l'assainissement. Donc moi, ce que je veux faire, c'est de devenir un jour un professeur du cours d'assainissement dans toutes les grandes universités de la République, voire même hors de la République. C'est ainsi que je suis en train de me préparer pour finaliser des masters et commencer maintenant à publier pour arracher les titres de doctorat et enseigner pour faire inculquer cette matière dans la communauté. Merci aux auditeurs de Radio Okapi.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Pour l'année prochaine, notez déjà cette date, le 27 janvier, l'unique rendez-vous dans les calendriers des Nations Unies, c'est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. C'est la fin de cette édition qui a connu le concours rédactionnel d'Honoré Missinga Kalala qui était aussi au reportage avec Amouri Aleka. Jean-Pierre Elali Koko était à la coordination, Dieudonné Nyangasa à la technique et moi, Suzanne Zobo-Audra, je vous l'ai présenté. Vous voulez réécouter ces numéros, tapez www.radiokapi.net. Encore, joyeux Noël à tous et particulièrement à tous les enfants.